Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode qui est le lendemain de l'épisode d'hier.
Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous voir pour un lendemain de veille, puis surtout quand c'est pas un lendemain de veille, qui est un vrai lendemain de veille, tu sais, c'est un lendemain de veille auditif, c'est pas un lendemain de veille qui te cloue au lit pendant des semaines.
Puis c'est rare, ça, surtout pour les gens qui sont de notre âge, qui sont plus que de notre âge, que 30 ans et plus, ça fesse d'une différente façon.
On a fêté l'anniversaire de Noémie il y a 2 semaines, et si vous nous suivez sur Instagram, on a même partagé une photo de cette soirée-là, c'était génial, mais je me remets encore de l'alcool que j'ai bu cette soirée-là, et j'étais même pas saoule. Et comme ça va plus, là, je peux plus boire, vraiment. Un cocktail maximum, deux, je me ramasse avec un mal de tête pour une semaine.
Je sais pas pour toi, Jess, mais moi, ça va être mon what the fuck de la semaine. C'est que j'ai été voir City in Color à Montréal, à Laval, je veux dire. Puis on a bu peut-être 3 drinks. Moi et Number 40 Tattoo, allez follow cette personne-là sur Instagram, wherever. On a fini le moment pub. On est allé voir City in Color, puis on a bu 3 drinks. On s'est couché à 00h30. Le lendemain, les deux, on était complètement cassés, complètement décollissés, complètement brisés. Dites-le comme vous voulez, puis je comprends pas. Ben en fait, oui, c'est parce qu'on est rendu à cet âge-là, mais comme...
On n'est pas en train de se rajeunir!
Fait que anyways, j'ai un peu devancé le moment What the fuck de la semaine pour moi. Fait que Jess, c'est quoi ton What the fuck de la semaine?
Je pense que tu vas fouiller aimer mon moment What the fuck de la semaine, mais je te fais un petit détecteur de mensonges. Avec 2 vérités et 1 mensonge, faut que tu devines le mensonge.
Excusez-moi, j'ai entendu crier.
Ah! Et excitée. Quand j'étais jeune, j'avais peut-être genre 8 ans, j'étais allée au village vacances vers le quartier de Québec avec ma famille, puis j'ai littéralement failli me noyer dans la piscine à vagues. C'est un inconnu qui m'a sauvée puis qui m'a ramenée à ma sœur. Comme je me souviens être pognée en train de me faire piétiner par les gens qui remarquait pas que j'étais au fond de la piscine parce que je m'étais cognée sur je sais plus trop quoi, je me rappelle pas, mais tout ce que je me souviens, c'est d'entendre comme le moteur de la piscine puis de voir comme le blanc, puis j'étais genre « c'est ainsi que ça se termine » et pouf, je me suis fait tirer en dessous de l'eau. Anyways. 2. Je suis allée en voyage avec mon amie Steph que tu connais parce que c'est une autre de mes demoiselles d'honneur. C'est mon amie d'enfance que j'adore. Sa famille m'amène avec eux pendant qu'on s'en va dans un voyage en Gaspésie, mais c'est comme la fin d'été. Puis, je sais pas si t'es déjà allé en Gaspésie, mais comme les plages regorgent de méduses mortes. C'est juste comme plein de cadavres de méduses. Puis, je pensais que c'était un cadavre, puis j'ai comme mis mon pied dessus, mais elle est encore en vie, fait qu'elle m'a piqué.
Où en Gaspésie?
Je m'en souviens vraiment plus, mais je sais qu'on a fait pas mal le tour. On a vu le rocher percé. Il y avait un quai. Je peux te montrer des photos. Oh my God! Il y a une photo où on faisait du cheerleading à l'époque, OK? Puis on a pris une photo, tu sais. C'était là que les appareils photo venaient de commencer à avoir des timers.
Oh non.
On faisait un stunt avec la sœur de Steph comme voltige, puis on l'a échappé. Puis t'as juste la sœur à Steph qui tombe mid-cliché.
Je vais juste parler à tous les millennials qui sont à l'écoute. Pixo. Ou les débuts de millennials qui étaient début millennials, puis qui étaient peut-être pas Gen Z, mais qui étaient début... En tout cas, Pixo. Vous allez vous reconnaître. Ou Skyrock.
J'étais une fan de Pixo, j'étais une fan de Skyrock, et fun fact, je faisais partie de la frange qui suivait genre Jade Lavoie sur Skyrock jusqu'à une certaine époque. Là.
Jade Lavoie, je l'ai connue sur justement Skyrock. Je la trouvais tellement cool.
Tellement, je me souviens comme sa photo avec les cheveux crêpés, elle me faisait penser un peu à Bill de Tokyo Hotel. Moi, j'écoutais Tokyo Hotel, puis j'étais sur Skyrock. J'écrivais même un blog d'histoire. Et fun fact, quand on a fait notre face reveal, parce que sur Instagram, on a montré nos faces récemment, on a quelqu'un qui nous a écrit, puis qui m'avait suivi à l'époque où je faisais un blog Skyrock. Puis elle me suit encore. C'est seulement quand on a fait le face reveal qu'elle a réalisé que ben, c'était moi qui suivais encore. Genre, quelle boucle bouclée!
Quand c'est arrivé cette histoire-là, je me rappelle, j'étais là, oh mon Dieu Seigneur, le monde est tellement petit! Est-ce qu'on s'éloigne de... Tu me disais comme, fallait que je devine des trucs, là, on s'éloigne tellement.
Pour finir cette petite tranche, Jade, salut à toi, qui me suivait sur Blog d'une princesse et qui nous suit encore à Crème et Cocktail, pour vrai, tu comprends même pas comment tu nous as fait capoter. C'est vraiment une belle histoire.
On t'aime, Jade.
OK, fait qu'on récapitule, ma première histoire, c'est que j'ai failli me noyer dans la piscine à vagues du village vacances Val-Cartier. La deuxième, c'est que j'ai marché sur une méduse que je croyais décédée puis que finalement, elle m'a piqué. Ça m'apprendra à être une personne niaiseuse qui respecte pas le corps d'animaux déchus. Et la troisième, c'est une histoire assez cocasse, mais tu connais-tu les glissades d'eau Calypso en Ontario?
Oui.
Il y en a une que ça fait comme ça un manège, genre tu fais une boucle dedans, genre le plancher se dérobe dessous tes pieds, puis avec l'élan, t'es supposé être capable de faire un 360, genre vraiment comme une boucle. Je suis restée pognée au milieu de la boucle, il a fallu qu'on m'évacue, genre, avec tout le staff.
Que tu me parles en ce moment, je me rappelle, c'est tellement... Oh, ça fait tellement peur.
Puis je voulais pas la faire, la maudite glissade, là, puis je suis restée pognée dedans, là, un cauchemar.
Qu'est-ce que t'as ressenti quand que la méduse t'a piqué?
C'est comme des petites aiguilles qui s'enfoncent dans ton pied, genre. Mais des aiguilles chaudes. Comme si l'aiguille, elle avait un esti de fil électrique, puis genre, ça te donne un choc dans tout le pied, puis un peu le mollet aussi, là.
OK, je pense que je vais arrêter ça live, parce qu'il faudrait que je fasse mon enquête trop longtemps. Je dis que la deuxième histoire est pas vraie.
C'est de les méduses? T'as raison.
Yes! OK, effectivement, c'est parce que je trouvais que Jess avait beaucoup de détails dans les deux premières histoires. Je m'excuse, la gang, ça a été long à l'écoute. Je m'excuse pas, en fait. That was so fun, je m'excuse absolument pas. Bref, la dernière histoire, t'avais tellement d'énergie quand tu la racontais. Puis la première histoire, il n'y en avait pas autant, mais il y en avait quand même beaucoup. Puis la deuxième histoire, oui, je te connais, puis c'était pas la même chose. Oh my God, on se connaît trop.
On se connaît tellement bien, mais je veux juste souligner que c'est vraiment vrai que je suis allée en Gaspésie, puis que la photo dont j'ai fait mention avec la sœur de Steph, Julie, qui tombe en vol... C'est vraiment une vraie photo qu'on a prise. Mais puis c'est vrai en plus qu'il y avait des cadavres de méduses. J'ai juste jamais pilé sur un cadavre de méduses. Non.
Ce que Jess ne sait pas, c'est que moi, j'ai déjà eu affaire avec une méduse. Quand t'as affaire avec une méduse qui t'a touché la peau, tu réagis pas aussi gentiment que ça.
OK, mais est-ce qu'on peut juste prendre un petit peu de votre temps puis demander à Noémie son anecdote de méduse parce que je veux la savoir?
C'était en 19... Non, c'est vrai. Je sais pas c'était quand, mais c'était pas en 1983. J'ai été en Jamaïque avec mes parents et mon frère. Je suis pas quelqu'un dans ce temps-là, en tout cas, j'étais pas quelqu'un qui voulait nécessairement aller profondément dans l'eau. Puis j'ai toujours eu un petit problème d'aller dans l'eau si je voyais pas au travers jusqu'à quelques années récemment. Bref, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau jusqu'en bas de mes genoux, vraiment juste en bas de mes genoux. Puis tout d'un coup, je décide de me dire « Ah, m'a mettre mes genoux, m'a mettre juste un petit peu mes genoux dedans. » Tout d'un coup, je sens quelque chose sur mon genou. Mais ça fait tellement mal que je peux même pas vous décrire comment... Oh my God, ça faisait tellement mal. C'est même pas un fil électrique dans l'eau qui touchait, c'était juste... On aurait dit un filament de lave... qui venait juste effleurer mon genou, parce que la méduse a comme juste effleuré mon genou. J'ai été tellement chanceuse, mais ça a juste effleuré mon genou. Fait que c'est comme vraiment un filament de lave. Tous ceux à l'écoute qui ont eu le toucher de la méduse savent de quoi je parle. C'est pour ça que Jess arrive, parce qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle. C'est pour ça que j'ai deviné aussi rapidement.
Le toucher de la méduse killed me.
Je me suis juste mis à crier. Je suis sortie en courant. Puis ça, c'est comme j'ai dit. Effleuré. Fait que j'imagine pas à quel point les gens qui ont eu une méduse attachée à leur jambe ou à leur n'importe quel membre que ça a dû faire mal. Mais je suis en criant de la crise de tabarnak de plage de l'océan que j'adore tant. Mon pauvre père. Mon pauvre père en chaise roulante électrique qui était là. Hein? Puis ma mère qui comprenait pas trop ce qui se passait. Mon frère, qui a 4 ans et demi de moins que moi, qui comprenait pas plus ce qui se passait. Moi, je hurlais au mur, qu'il y a personne autour de moi qui comprenait. Puis j'avais 3 lignes rouges au vif sur mon genou qui faisaient tellement mal. Puis non, avant que vous ne me demandiez la question, je sais pas ça fait quoi si on pisse dessus parce que je l'ai pas fait.
Ma blonde dit qu'il faut juste du chaud. Elle, ils mettent de l'eau chaude à la plage d'où elle venait. Fait que c'est pas la pisse, c'est juste comme un liquide chaud. Fait que si jamais ça vous arrive, sachez que vous êtes pas obligé de vous faire uriner dessus. Vous pouvez juste prendre de l'eau de thé, puis la foutre de l'eau de thé, mais tu sais, de l'eau bouillie, là. Pas de l'eau de... pas du thé vert, ça. OK.
C'est parce que dans le temps, ce qu'il disait, c'est que ce qu'il y a dans l'urine, c'est de l'ammoniac. Fait que l'ammoniac rendrait la douleur de ce qui nous fait mal, de quand on se fait piquer par des méduses moins intenses. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, c'est juste pour vous dire que ça fait mal en Saint-Sacrement de tabarnak de calice, pour dire en bien bon québécois, ça fait très mal. On m'a mis des compresses d'eau chaude, justement, puis ça a fini par passer. J'ai été vraiment juste effleurée. Je le dis encore. Fait que j'imagine même pas comment. Là, j'essaie parce que j'essaie de pas dire le mot que je dis depuis tantôt. Mais en tout cas, bref, ça fait mal.
Bon. Je suis privilégiée au point de pas avoir été piquée par une méduse. Hey, pour vrai, je pense que c'était dans mes top moments préférés de début de podcast. J'espère qu'on vous a pas perdu à l'écoute, mais ben du fun de notre côté.
Donc sur ce, pour en revenir, Jess, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
Aujourd'hui, on boit un Berry French 75, donc un français 75e au baie. Un French 75 classique, c'est fait avec du gin ou du cognac, du citron, du vin mousseux, mais vous le savez parce que ben on l'a déjà bu sur le podcast, mais il y a d'autres spiritueux qui fonctionnent vraiment bien comme ceux aromatisés, il y a pas grand-chose dans le fond qui joue pas bien avec des agrumes et des bulles. Pour le French Berry 75, on recommande un vin mousseux français sec plutôt qu'un prosecco italien ou un cava espagnol plus sucré. Mais vous connaissez la devise à crème et cocktail. Dans cette économie, pas besoin de champagne cher. Un crémant de Limoux bon marché, ça fonctionne très très bien. Dans un shaker, mettez un once et demi de vodka, un demi-once de citron frais, un demi-once de sirop simple et... shake, shake, shake. On va filtrer avec un filtreur, bien évidemment, ma bonne chum, et on va mettre le liquide filtré dans un verre. Et c'est maintenant que notre petit crémant de Limoux entre en jeu parce que tu vas le popper et tu vas le mettre dans ton cocktail pour l'allonger. Fait que voili voilou, voilà voilà, ton French Berry 75 ou ben ton français de 75 au baie.
Moi, je suis une grande fan, comme vous le savez, si vous écoutez Crème et Cocktail depuis longtemps. Sinon, bien, revenez aux épisodes précédents et écoutez-les. J'adore les French 75 et j'adore celui-là parce que je suis une grande fan de baie. 9,5 sur 10.
Pareillement, je pense que je vais y aller pour un 9,5 aussi. Écoute, ça fait deux jours de suite, j'allais dire deux semaines, mais deux jours de suite où on a les mêmes notes. Mais moi aussi, écoute, ça regroupe pas mal tout ce que j'aime. Je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir le petit 0,5 manquant, mais c'est ça qui est ça. 9,5. Cheers!
Chien, chien.
Fait que là, maintenant qu'on a parlé longtemps pendant le moment What the fuck et le cocktail, c'est mon tour de t'écouter et c'est ton tour de me raconter une histoire. De quoi tu me parles aujourd'hui?
Allons-y, allons-y avec le cas d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un secret pour personne qu'il y a une longue tradition de violence et de discrimination contre les Américains d'origine asiatique et les habitants des îles du Pacifique tissée à travers l'histoire de la nation américaine. La compilation des données sur les crimes haineux publiée par le Centre pour l'étude de la haine et de l'extrémisme a révélé que les crimes haineux anti-asiatiques ont augmenté de 339% en 2021 par rapport à l'année précédente, avec New York, San Francisco, Los Angeles et d'autres villes dépassant leur chiffre record en 2020. Ces augmentations significatives s'inscrivent dans le cadre d'une augmentation globale de 11% des crimes haineux présumés signalés à la police dans une douzaine des plus grandes villes américaines. Ayesha Ghazi Edwin, présidente de la Commission des affaires américaines d'Asie-Pacifique du Michigan, donc la MAPAAC, a dit, et je cite, une partie de la culture américaine minimise et prétend que la discrimination contre les Américains d'origine asiatique ne peut pas exister et n'existe pas. Fin de la citation. Il y a environ 22,9 millions d'Américains d'origine asiatique et 1,6 millions d'Hawaïens et d'habitants des îles Pacifiques aux États-Unis selon les données du recensement de 2019. L'histoire américaine est marquée par l'exclusion, la discrimination et les préjugés anti-asiatiques, en particulier lorsque les temps économiques sont difficiles ou lorsque d'autres périodes sont de grands troubles. Après le 11 septembre, les crimes haineux anti-musulmans signalés au FBI ont augmenté de 1600% en 2001, contrairement à l'année 2000. Les exemples vont plus loin. Le Page Act de 1875, la première loi américaine sur l'immigration qui interdit presque toutes les femmes chinoises après la Grande Panique de 1873. Il y a aussi la loi d'exclusion chinoise qui, en 1882, a interdit à presque tous les Chinois d'entrer dans le pays pendant la longue période de dépression de 1873 à 1896. Les émeutes de Bellingham en 1907, au cours desquelles une foule de 500 ouvriers blancs ont attaqué et chassé plusieurs centaines d'hommes, pour la plupart sikhs, par crainte de concurrence dans les scieries et l'incarcération en 1942 d'environ 120 000 Américains d'origine japonaise après le bombardement de Pearl Harbor, pour n'en citer que quelques-uns. Le rapport le plus récent de Stop AAPI Hate, une coalition qui suit les incidents haineux et les crimes haineux contre les Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique aux États-Unis, montre qu'entre mars 2020 et décembre 2021, près de 11 000 incidents haineux contre les Américains d'origine asiatique et les insulaires du Pacifique ont été autodéclarés et signalés à l'organisation. Près de 62 % de ces incidents-là ont été signalés par des femmes. L'enquête a également révélé que les hommes américains d'origine asiatique sont tout aussi susceptibles d'être victimes de crimes et d'incidents haineux, mais sont moins susceptibles de les signaler, et que 83 % des parents américains d'origine asiatique craignent que leur enfant soit victime d'intimidation en raison de leur race ou leur origine ethnique. Aujourd'hui, je vous parle d'un crime de haine datant de plus de 40 ans. Un crime qui a déclenché un mouvement des droits civiques qui est enfoui assez profondément dans l'histoire américaine. On doit en parler, on le doit à la population asiatique-américaine et surtout, on le doit à la victime et à sa famille, Vincent Chin. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont NBCnews.com, le podcast Murder with My Husband, PBS.org, LA Times, AMDoc.org, CNN et l'Université du Michigan. Vincent Chin est né le 18 mai 1955 dans la province de Guangdong, en Chine continentale. Il était le seul enfant de Bing Hing, a.k.a. David Chin, alias C.W.Hing, et de Lily Chin. Lily a grandi en Chine, dans l'une des plus grandes villes du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle et sa famille se sont retirés dans les montagnes à l'extérieur de la ville, alors que le nouveau dirigeant communiste Mao Zedong se battait pour établir la République populaire de Chine. Elle a commencé à rêver d'un monde démocratique et de ce à quoi ça devait ressembler, surtout en Amérique. Une fois la guerre terminée, elle a écrit des lettres à un jeune soldat sino-américain aux États-Unis qui s'appelait David Chin. Les deux se sont rencontrés en 1945 quand David est revenu en Chine pour rencontrer Lily et ce fut un coup de foudre. Ils se sont mariés en 1946 et David Chin a obtenu le droit d'amener une épouse chinoise aux États-Unis grâce à son service pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont installés dans un petit appartement à Détroit au Michigan à Helen Park qui était à l'époque un quartier de la classe moyenne. Après que Lily ait fait une fausse couche malheureusement en 1949 et n'ait pas pu avoir d'autres enfants, le couple a décidé d'adopter. Alors qu'il regardait des photos d'enfants venant d'un orphelinat chinois, un enfant en particulier a accroché leur regard. Un petit garçon de 4 ans nommé Jen. C'était le seul à sourire sur les photos. Lily a immédiatement senti une connexion avec Jen. Et après un processus intense et fatigant, ils ont adopté le petit garçon en 1961. Lily et David ont décidé de lui donner un nom plus américain afin qu'il puisse mieux s'intégrer à son nouveau pays et ils l'ont appelé Vincent. Pendant la majeure partie des années 1960, Vincent a grandi à Helen Park. Contrairement à sa mère, il a semblé s'ajuster assez rapidement à son nouvel environnement. À l'époque, à Détroit, la population asiatique ne faisait que 1 % de la population de la ville, donc environ 7 600 sur 1,2 million de gens. Vincent s'est tout de même fait plein d'amis et il avait une personnalité ensoleillée et optimiste. Il s'habillait avec des petites cravates à l'école afin d'être toujours à son meilleur et la mère de Vincent, Lily, a dit que même en grandissant, il a toujours été un enfant merveilleux avec de bonnes manières, mais qu'il a toujours été un, entre guillemets, « ladies man ». Comme on dit dans le jargon anglais, on pourrait dire aussi en français un « don juan ». En fait, Vincent, c'était le genre de personne que le party commençait quand il arrivait et il charmait toujours presque toutes les filles qu'il rencontrait et je tiens à souligner, je dis ça d'aucune façon péjorative. C'était un beau bonhomme, bourré d'énergie et il savait toujours comment entamer les conversations ou comment rendre les conversations et les gens autour de lui fluides et le fun. C'était un romantique dans l'âme, il écrivait de la poésie et il rêvait de le faire professionnellement un jour, ce que sa mère Lily a encouragé de ne pas faire. La profession d'écrivain était trop risquée selon elle et un jour, ben, il devrait s'occuper financièrement de sa propre famille, ce qui nécessitait un emploi, disons, plus stable selon elle. En écoutant les conseils de sa mère, Vincent s'enrôle à l'Institut de technologie Lawrence dans le but d'obtenir son diplôme d'ingénieur. En 1978, Vincent, alors âgé de seulement 23 ans, rencontre la personne avec qui il veut passer le reste de sa vie. Une jeune femme de seulement 20 ans, prénommée Vicky, qu'il a rencontrée à une danse et, comme ses parents avant lui, c'était le coup de foudre. Il se remit à écrire des poèmes, appelant Vicky sa muse et, un an plus tard, l'a demandé en mariage, mariage qui était supposé se dérouler le 28 juin 1982. Le couple a énormément économisé pour leur mariage et pour aussi acheter une maison. Vincent travaillait pour une entreprise d'ingénierie en tant qu'opérateur informatique pendant la semaine et le week-end, il travaillait comme serveur dans un restaurant. Malheureusement, l'année 1981 a été difficile pour la famille Chin. Le père de la famille, David, est décédé à la suite d'une maladie rénale peu avant le mariage de Vincent. Tout ça a seulement poussé encore plus Vincent à travailler plus fort afin de pouvoir offrir et de laisser derrière lui une belle vie à lui et ses proches. Peu après leur retour de lune de miel à Aruba, le couple qui formait Vincent et Vicky voulait commencer à bâtir leur propre famille et ils ont même demandé à Lily, la mère de Vincent, de déménager dans leur maison afin d'aider à s'occuper de leur futur enfant. Vincent était de plus en plus excité devant tous les beaux projets qu'il avait, devant toute la vie qui lui restait. Mais malheureusement, seulement 9 jours avant son mariage, tous ses rêves lui ont été arrachés. Avant de continuer avec le cas, c'est nécessaire que je vous dise qu'au cours d'une récession économique au début des années 1980, le déclin de l'industrie automobile causé par l'augmentation continue du prix du gaz et le fait que les autos américaines étaient simplement pas aussi économiques côté gaz que les autos japonaises. En gros résumé, les gens achetaient plus d'autos japonaises que autos américaines parce que les autos japonaises étaient seulement meilleures. Donc le tout a provoqué un ressentiment à l'égard des autos japonaises importées à Détroit, qui était le centre de l'industrie automobile aux États-Unis. Simplement parce que c'était meilleur marché. Simplement parce que le Japon faisait les autos mieux que les Américains et les Américains étaient fâchés de ça. Le dénigrement du Japon est devenu populaire auprès des hommes politiques comme le représentant américain du Michigan, John Dinghell, qui a imputé aux « petits hommes jaunes », ferme la parenthèse, le malheur des constructeurs automobiles nationaux. À l'échelle nationale, le racisme anti-asiatique accompagnait souvent les campagnes exhortant les consommateurs à encore « acheter américain ». De retour au cas, nous sommes maintenant la soirée du 19 juin 1982. C'était une soirée assez tranquille où, au restaurant où Vincent travaillait, donc ses patrons ont décidé de le couper plus tôt.
Un petit fait que t'as pas mentionné qui est quand même assez intéressant à comprendre pour l'espèce de contexte dans lequel l'histoire que tu nous présentes s'est produite. Détroit qu'on connaît aujourd'hui, c'est une ville assez délabrée, assez dangereuse, extrêmement criminalisée. Mais dans le contexte dans lequel Noémie a présenté l'épisode, ça a pas toujours été le cas, en fait. Puis, justement, avec l'espèce de phénomène que Noémie vient de présenter, ça l'a généré à Détroit une grande perte de richesse parce que ben c'était la capitale automobile auparavant, puis là ben toutes les compagnies automobiles se sont fermées petit à petit, les gens ont perdu leurs emplois, les gens ont fait faillite, les gens ont perdu leurs maisons, ce qui a donné le Détroit qu'on connaît aujourd'hui. Et même encore à ce jour à Détroit au Michigan, il y a beaucoup de haine anti-asiatique qui est propagée, qui a juste été comme propagée de génération en génération. Je trouve que c'est assez intéressant à souligner que à Détroit, encore plus à cause de ce que tu as mentionné, surtout à cette époque-là, il y a une grande haine inutile et inexpliquée envers la communauté asiatique.
Merci, Jess, de l'avoir dit. Puis, on va en reparler plus tard dans l'épisode, mais je t'ai arrêté. Je voulais absolument que tu l'expliques dans tes mots parce que je trouvais que tu l'expliquais tellement bien. Je trouvais que c'était vraiment un élément qui était super important qu'il fallait pour embarquer dans l'épisode. Puis, je suis contente que tu l'aies apporté. Donc, merci.
Merci à toi, ma bonne chum.
De retour à la soirée que Vincent travaillait, puis il a été coupé plus tôt parce que, ben, c'est une soirée en restauration, puis il n'y avait pas assez de personnes, donc il a été laissé aller plus tôt. La soirée, maintenant, libre devant lui, il a décidé que c'était une soirée idéale pour un enterrement de vie de garçon de dernière minute. Il a appelé quelques-uns de ses amis proches pour voir s'ils étaient libres, et Robert Sirowski, Jimmy Choi et Gary Koivu l'étaient. Les jeunes hommes ont commencé la soirée en se passant une bouteille de vodka et le plan était de se diriger ensuite au Fancy Pants Club, un strip club, mais le club ne servait pas d'alcool. Ils ont fait comme n'importe quel d'entre nous avant une soirée festive, ils ont pre-game comme qu'on dit au Québec, je sais pas si c'est un terme qu'on applique ailleurs ou ce qu'ils parlent en français, mais bon, pre-game veut dire avant d'aller à une soirée, tu bois un peu d'alcool avant la soirée, puis après tu te diriges vers l'autre endroit. On appelle ça un pre-game.
C'est comme un peu l'apéritif en France, mais sans les fromages, juste le vin.
Puis plus d'alcool fort qui goûte le plancher de bord à 4 heures du matin. Anyways. Comme n'importe qui, ils voulaient avoir un petit buzz avant qu'ils arrivent au club. En arrivant au club, ils se sont assis juste en face de la scène et Vincent, ben, il se gênait pas de donner des poignées de 1$ parce que là-bas, aux États-Unis, si vous êtes pas accoutumé à ça, les 1$, c'est des 1$ en papier. Il se gênait pas de lancer des 1$ à chaque danseuse qu'il voyait parce que, ben, c'était bien son enterrement de vie de garçon après tout.
Ben, de toute façon, je veux dire, tu t'en vas aux danseuses pour dépenser de l'argent, puis les stripteaseuses, elles sont là pour faire de l'argent. Fait que c'est un très bon échange de services.
Quand vous allez à un bar de danseuses, donnez de l'argent. Signez Crime et Cocktail. Encore une fois, de retour à l'histoire, la soirée se passait bien jusqu'à ce que deux hommes blancs arrivent et prennent place juste en face d'où étaient assis Vincent et ses amis. C'était un superviseur de l'usine Chrysler, Ronald Ebens, et son beau-fils, un ouvrier automobile licencié nommé Michael Nitz. Selon une interview du documentaire américain Michael Moore pour le Detroit Free Press, après que Vincent ait donné une généreuse contribution, si on peut dire ça comme ça, à une danseuse, Ronald Ebens a crié, et je cite, « Hey, petits enfoirés, ferme la station », et a dit à une autre danseuse, « Ouvre encore la station », ne faites pas attention à ces petits connards. Ils ne connaîtraient même pas une bonne danseuse s'ils en voyaient une. Ferme la station. Racin Cowell, une danseuse du bar, a témoigné plus tard que Ronald Ebens a déclaré, et je cite, « C'est à cause de vous, petits enfoirés, que nous sommes sans travail. » Ferme la station. Et je tiens juste à dire que ces citations-là ont été traduites de l'anglais. Je sais pas comment dire ça, il y a certaines intonations, il y a une certaine lourdeur, gravité qui peut pas se traduire entre les langues. Donc là, je trouve juste que les phrases que j'ai dites sont pas assez lourdes, contrairement à ce que Ronald Ebens a dit à Vincent Chin. On passe à autre chose. Pour en revenir à ce que j'ai dit plus tôt, Détroit, c'était l'une des capitales de l'industrie automobile du pays, ce qui signifiait que de nombreuses personnes à Détroit avaient été licenciées et avaient perdu leur emploi à cause de la concurrence des constructeurs automobiles japonais. Soudainement, leur emploi bien rémunéré et doté de très bons avantages sociaux ont disparu et les gens étaient maintenant en colère. Assez en colère que c'était pas inhabituel de lire dans les journaux que quelqu'un avait été abattu sur l'autoroute au volant d'une voiture de fabrication japonaise. Malgré le fait que Vincent n'était pas du tout japonais, on se rappelle qu'il était chinois et qu'il ne travaillait absolument pas dans le commerce de l'industrie automobile, Ronald et Michael s'en foutaient. C'était juste deux hommes blancs, racistes, stupides et frustrés. Un cocktail dangereux.
Je fais plein d'interventions aujourd'hui, je m'énerve, mais je vais faire un appel à tous. On peut-tu arrêter de référer à chacune des personnes asiatiques comme un chinois, justement? Genre, les gens asiatiques, ils ne sont pas tous des chinois, ne sont pas tous des japonais, ne sont pas tous des coréens. Ils sont tous différents, ok, ma bonne chum de fille? Fait qu'arrête de référer aux gens asiatiques comme des chinois. Merci.
Ça me fâche tellement, là, parce que il y a tellement une différence dans tous les pays asiatiques, puis je trouve ça vraiment désolant. En tout cas, moi, je parle juste pour mon expérience personnelle au Québec, comment qu'on n'étudie absolument pas l'histoire de tous ces pays-là. Ça me fâche tellement, puis... Fait que j'imagine même pas pour ces personnes-là comment que ça doit être frustrant. En fait, je suis même pas imagine, je peux même pas mettre un mot dessus parce que je sais pas comment qu'on peut se sentir quand on vit ce genre de situation-là parce que je peux pas le vivre.
Une de mes meilleures amies, dont j'ai d'ailleurs fait mention au début de ce podcast, son père est coréen, puis c'est ma meilleure amie d'enfance. J'ai été avec elle au travers de tellement d'insultes qui ont été lancées. Puis je veux dire, j'ai entendu se faire traiter de « made in China », de « chinoise », tu sais, je veux dire, c'est toujours ce genre d'insultes-là qui revenaient. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment, vraiment mieux, mais tu sais, on a fini le secondaire puis le primaire, là, je sais pas comment ça se passe dans les écoles. Mais à notre époque, quand on était à l'école, ben, il y avait plein de gens qui faisaient juste l'insulter sur son apparence, puis il la mettait, il lui donnait l'étiquette d'être une personne chinoise quand ce n'était pas du tout ça qui était, puis que ça témoignait en fait de leur ignorance, là.
C'est ça qui se passe en ce moment, puis c'est ça qui se passe depuis toujours. C'est pas juste pour ça que j'ai voulu parler de Vincent Chin, c'est parce que Vincent Chin mérite qu'on parle de lui, parce que c'est une histoire qui a marqué les États-Unis, qu'on n'entend jamais parler, puis que moi, personnellement, je n'ai jamais entendu parler avant de rechercher sur certains sujets. Puis je trouve ça tellement aberrant que moi, personne qui recherche tellement sur le true crime, sur l'histoire, j'étudie en histoire, j'ai jamais entendu parler de Vincent Chin. Je manque de mots pour décrire à quel point c'est désolant. C'est plus ce que je cherche à dire.
On va juste conclure ce petit segment de rant en disant éduquez-vous, puis soyez gentils, puis surtout, n'oubliez pas qu'il faut être inclusif dans la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Vincent, après le commentaire fait à son égard, disant que c'était de sa faute si les gens étaient sans travail, s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers les deux hommes. Selon les dires de Ronald et Michael, que je ne crois personnellement absolument pas, puis même si c'était vrai, si tu cries des insultes racistes, attends-toi à ce qu'il y ait une quelque sorte de réaction. Vincent aurait donc poussé Ronald et tout aurait escaladé à partir de ce moment, même que des chaises auraient volé. La bataille s'est intensifiée lorsque Michael a poussé Vincent pour défendre, entre guillemets, son beau-père et, ben, Vincent aurait répliqué. Michael a subi une coupure à la tête causée par une chaise que son beau-père Ronald avait eu l'intention d'utiliser pour frapper Vincent. Tout ça a duré seulement 2 minutes jusqu'à ce que les gardes de sécurité s'interposent. Vincent et ses amis ont quitté le club tandis qu'un bouncer conduisait Ronald et Michael aux toilettes pour nettoyer la blessure de Ronald. Selon Ronald et Michael, un des amis de Vincent, Robert Sursky, est revenu à l'intérieur pour utiliser les toilettes et en même temps s'est excusé auprès du groupe. Il a déclaré que, ben, il a dit, ben, Vincent a bu quelques verres parce que c'est son grand garçon, puis ben, le groupe avait juste un peu de fun, puis tout ça a escaladé trop vite, puis c'était juste quelque chose qui était devenu hors de contrôle. Soit dit en passant, Ronald et Michael avaient bu seulement quelques bières ce soir-là. Puis ils s'en foutaient de ce que l'ami de Vincent avait dit. Quand Ronald et Michael ont sorti du club, ils ont retrouvé Vincent et ses autres amis qui attendaient Robert à l'extérieur du club. Vincent aurait traité Ronald de, et je cite, « merde de poulet », ferme la citation. À quel point Michael aurait récupéré, en fait, à quel point Michael a récupéré une batte de baseball de sa voiture et Vincent et ses amis se sont enfuis. Et je veux juste dire, avant que vous jugiez Vincent, vous vous faites dire des commentaires racistes si vous n'êtes pas d'une minorité visible, vous vous faites dire des commentaires péjoratifs directement à votre personne, vous allez réagir. Tout ça, ça aurait pu s'arrêter là. Le duo de Ronald et Michael aurait pu dire « Hey, j'ai ben trop bu, j'ai été raciste, c'est moi qui ai déclenché tout ce bordel-là, je vais aller soit à l'hôpital ou je vais aller chez nous, je vais prendre une ou deux Tylenol puis je vais aller me coucher. » Mais non seulement on est à Crime et Cocktail, mais on est surtout aux États-Unis. Ronald Evans et Michael Nitz ont embarqué dans leur voiture et ont fouillé le quartier pendant 20 à 30 minutes à la recherche de Vincent. Ils ont même payé 20$ à un autre homme qu'ils ont trouvé sur le bord de la rue pour aider à rechercher Vincent ou, comme dans leurs mots, entre guillemets et je cite, « retrouver le Chinois », ferme la station, avant de le trouver dans un restaurant McDonald's voisin. Vincent était en train de rire avec ses amis, ce qui a encore plus enragé les deux hommes dans le véhicule parce que eux, ils prenaient ça vraiment au sérieux. Michael a sneak up derrière Vincent et l'a pris en chokehold, donc en l'étranglant, avec un bras en tenant sa tête pendant que Vincent a tenté de s'échapper, mais il a été retenu par Michael.
Dans le McDo.
Tout ça, c'était dans le parking du McDonald's. Pendant que tout se passait, Ronald a été récupérer le bat de baseball dans leur voiture et pendant que Michael retenait Vincent, Ronald le matraquait à plusieurs reprises avec la batte de baseball. Vincent réussit à s'enfuir de la prise de Michael et a couru dans la rue, dans le trafic et a trébuché. Quand il a levé les yeux, il a vu Ronald debout, penché au-dessus de lui. C'est à ce moment-là que Ronald Evans a frappé Vincent Chin avec la batte de baseball, plusieurs fois derrière la tête, ensuite dans le visage, encore derrière la tête et dans le ventre. Du sang sortait en abondance du corps de Vincent, mais Ronald n'a pas arrêté, même si une foule de personnes s'était rassemblée devant cette scène de violence horrifique, il n'a pas arrêté. Un témoin de la scène a dit, et je cite, « Ron brandissait la batte comme s'il se balançait pour un coup de circuit. » Fin de la citation. La seule chose qui est venue au secours de Vincent sont les deux policiers qui étaient en train de manger à l'intérieur du McDonald's. Quand ils ont vu tout ce qui était en train de se passer à l'extérieur, ils se sont précipités sur la scène en criant et en pointant leur fusil en direction de Ron. C'est à ce moment-là que Ron a réalisé supposément la gravité de tout ce qu'il venait de commettre. Il a été arrêté et placé en garde à vue et un des policiers a appelé une ambulance. Jimmy, un des amis de Vincent, s'est justement approché de Vincent, qui à ce moment-là s'étouffait dans son propre sang et a murmuré quelques-uns de ses derniers mots et je cite « Bats-toi, bats-toi, ce n'est pas juste. » En anglais, il a dit « Fight, fight, this is not fair. » Vincent Chin a été transporté d'urgence à l'hôpital Henry Ford et était dans le coma à son arrivée à 22h21 avec la majorité de son activité cérébrale arrêtée. Il s'est fait donner seulement 5% de chances de survivre. Un des ambulanciers qui a arrivé sur la scène de crime et qui a amené Vincent à l'hôpital a dit que dans ses 11 ans de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un battu aussi violemment que Vincent Chin. Les chirurgiens ont opéré sa tête pendant la nuit avant de le placer sous assistance respiratoire. L'œdème était si grave que les médecins ont dû retirer une partie du cerveau de Vincent pour augmenter sa chance de survie. Malgré ça, après l'opération, son état ne s'était pas amélioré. Après 4 jours, la mère et la fiancée de Vincent ont accepté de le retirer du système de réanimation. Il est décédé le 23 juin 1982. Il avait 27 ans. Ses 400 invités pour son mariage ont assisté à ses funérailles. Les meurtriers de Vincent Chin, Ronald Evans et Michael Nitz, ont été initialement accusés de meurtre au deuxième degré. Bien que les deux hommes aient plaidé coupables d'homicide involontaire, aucun d'eux n'a passé une journée entière en prison.
Involontaire? Deuxième degré? Est-ce qu'on me niaise? Ils l'ont cherché pendant 20 minutes dans la rue puis ont payé quelqu'un pour le pourchasser. Est-ce qu'on me niaise?
Je suis exactement où ce que t'es, Jess. Attachez-vous, accrochez-vous la gang. Ça, c'est rock'n'roll ce qui s'en vient. Puisque les deux hommes n'avaient aucun dossier criminel, ils ont été relâchés sans devoir payer une caution. Tout ça a évidemment choqué spécifiquement un des deux policiers présents sur la scène. Il a dit qu'il avait vu des gens se faire incarcérer parce qu'ils avaient de la marijuana sur eux et que ces deux hommes ont violemment battu un homme à mort sans défense et ces deux hommes-là peuvent dormir dans leur lit le soir même. Pendant 8 mois, les deux tueurs ont continué leur train-train quotidien alors qu'ils attendaient leur procès. Des hommes qui ont traqué sans aucune raison, sauf le fait qu'ils ont été racistes et qu'ils ont allumé une situation par eux-mêmes en envenimant une situation qui n'existait même pas. C'est eux qui ont attaqué en premier une autre personne. Ils ont tué une autre personne. Ils vont le soir, sans payer une caution, dormir chez eux. Bref, Quand le jour est enfin arrivé de leur procès le 8 février 1983, ils ont plaidé, entre guillemets, « no contest », en espérant que le juge soit clément. On le rappelle, « no contest » veut dire qu'ils ne plaident pas coupables, ils ne plaident pas coupables non plus. Je résume ça très brièvement, puisqu'on a déjà parlé dans un épisode précédent, mais ça veut juste dire « je dis pas oui, je dis pas non ». Mais leur tactique a fonctionné. Le juge Charles Kaufman les a condamnés à 3 ans de probation et à une amende de 3 000 $, et tout ça aux frais de la justice. Le juge Kaufman a dit plus tard, et je cite, « Ce n'était pas le genre d'homme que vous envoyez en prison. Nous parlons ici d'un homme qui a occupé un emploi à responsabilité pendant 17 à 18 ans et dont le fils est employé et étudiant à temps partiel. Vous n'adaptez pas la punition au crime. Vous adaptez la punition au criminel. » Fin de la citation.
Je veux juste dire que Guy Turcotte était aussi salarié depuis plusieurs années lorsqu'il a commis le meurtre de ses 2 enfants à sang-froid. Merci, à la prochaine.
Ronald Evans lui-même a avoué être sous choc face à la décision du juge. Lui, il s'était déjà préparé mentalement à aller en prison. C'est important aussi de noter que l'enquête policière a été assez ratée. La police n'a même pas interrogé les témoins clés de l'affaire, incluant les danseuses, dont celle qui avait entendu Ronald criait des insultes racistes à Vincent. De plus, à cette époque, c'était pas vraiment rare que le bureau du procureur manque les audiences de détermination de peine, ce qui signifiait dans ce cas que personne ne représentait la famille Chin ce jour-là au tribunal. Personne pour défendre Vincent Chin. En plus de ça, personne n'avait mis Lee Chin au courant de l'audience ce jour-là. Donc, fondamentalement, Kaufman, le juge, a entendu une version de l'histoire, donc la version des 2 hommes qui ont tabassé sans scrupule, sans aucune raison, complètement à base de racisme, une autre personne, puis il a décidé de passer à d'autres choses. Dans les années 1980, la communauté asiatique américaine de Détroit était petite et fragmentée, comme j'ai dit plus tôt. Les groupes ethniques restaient pour la plupart entre eux. De nombreux membres de la communauté ont adopté une attitude, en guillemets, « ne faites pas de vagues », citant la crainte que les protestations n'entraînent davantage de difficultés dans un environnement tendu et divisé sur le plan racial. Il y avait également peu de protection pour les individus qui s'exprimaient ouvertement ou ceux qui souhaitaient protester, puisqu'il n'y avait pas de groupe de défense ou d'organisation de surveillance des Américains d'origine asiatique à Détroit. Cependant, et heureusement, tout ça a changé le 18 mars 1983, 9 mois après la mort de Vincent Chin. La peine indulgente prononcée contre ses agresseurs a indigné les communautés d'origine asiatique, en particulier la mère de Vincent Chin, Lily Chin. Comme toute mère, elle n'allait pas laisser les choses s'arrêter là. Elle savait que son fils valait plus que 3 000 $ d'amende et quelques heures de travaux communautaires. Elle a fait appel à la décision concernant son fils auprès du Chinese Welfare Council de Détroit, la branche civique de la communauté des affaires de Chinatown. Elle a écrit, et je cite, « Cette injustice est d'un extrême terrible. Le sang de mon fils a été versé. À quel point ça pourrait-il être justice? Je suis triste dans mon cœur et je verse des larmes de sang. Oui, mon fils ne peut pas être amené et je ne peux qu'attendre la mort. » Fin de la citation. Le 31 mars 1983, plus de 100 personnes et représentants d'organisations asiatiques de la grande région de Détroit se sont rassemblés dans la salle de réunion du Detroit Chinese Welfare Council dans le quartier chinois de Détroit. Le public était diversifié et comprenait des Asiatiques de différents groupes d'âge, affiliations politiques, professions et ethnies. Les membres d'une 20aine d'organisations se sont engagés à constituer une coalition populaire qui défendait les intérêts de tous les Américains et pas seulement d'un groupe ethnique. Cette coalition a été baptisée American Citizen for Justice, donc ACJ, et a marqué le premier effort de plaidoyer explicitement américain d'origine asiatique avec une portée nationale et élargie, et pour inclure également des défenseurs non asiatiques. Dans les mois qui ont suivi, la ACJ a rassemblé des dons et des bénévoles pour se mobiliser en faveur de la justice pour Vincent Chin. Qu'il s'agisse de donner des conseils juridiques ou de collaborer avec des organisations de défense des droits civiques à Détroit, comme les organisations noires de la région de Détroit ou le programme d'action communautaire du United Auto Workers Union, l'ACJ a fait campagne pour le cas de Vincent Chin. Le 9 mai 1983, l'ACJ a organisé une grande manifestation à Kennedy Square à Détroit pour illustrer le tollé général. Lily Chin et les avocats de l'ACJ se sont rendus à Washington, D.C. pour rencontrer la division des droits civils du ministère américain de la Justice afin de discuter des poursuites fédérales en matière de droits civils contre Ronald Ebens et Michael Nitz. La mobilisation massive et les efforts juridiques de l'ACJ ont conduit le ministère américain de la Justice et le FBI à ouvrir une enquête sur le meurtre de Vincent Chin. En 1983, un grand jury fédéral a déclaré Ronald Ebens coupable de violation des droits civils de Vincent Chin parce que l'attaque était motivée par le racisme. Il a été condamné à 25 ans de prison. Si vous êtes déjà fâché, attachez-vous parce que Ronald Ebens a fait appel de ce verdict, affirmant qu'il ne pouvait pas obtenir un procès équitable en raison de la publicité entourant l'affaire à Détroit. Ses avocats ont déposé avec succès une requête de déménagement et l'appel a eu lieu à Cincinnati en 1987. Les juges du circuit, précisément Angel, Kennedy et Milburn, ont acquitté Ronald Ebens de la violation des droits civils. Leur décision ne fait qu'inciter davantage les militants à dénoncer la discrimination et le racisme dont sont victimes les Américains d'origine asiatique. Avec l'acquittement, Lily Chin a intenté avec succès une action civile pour la valeur de la vie de son fils. Le juge a ordonné à Ronald Ebens de payer 1,5 million de dollars seulement et à Michael Nitz a versé seulement 50 000 $ à la succession de Vincent Chin. Bien que Michael Nitz ait effectué le paiement, Ronald Ebens a refusé. Aucun paiement n'a été effectué, donc les intérêts ne font qu'augmenter sur le montant dû. Bien que la vie de Vincent Chin ait été écourtée à l'âge de 27 ans seulement, il a laissé un immense impact au sein des communautés américaines d'origine asiatique au niveau local et national et un impact global tout court. Sa mort et les procédures judiciaires qui ont suivi sont considérées comme des tournants critiques pour l'engagement des Américains d'origine asiatique en faveur des droits civiques. Au sein de l'organisation locale et nationale, les membres concernés de la communauté et les groupes de défense de droits civiques se sont rassemblés pour une législation fédérale plus stricte sur les crimes haineux qui protégeaient les Américains d'origine asiatique. L'atelier général suscité par le meurtre de Vincent Chin a contribué à la formation de l'identité et de l'unité pan-asiatique américaine. Vincent Chin est commémoré par le biais de monuments commémoratifs, de groupes de défense et de ressources éducatives. En 2010, la ville de Ferndale, dans le Michigan, a érigé un monument à l'intersection de Woodward Avenue et de Nine Mile Road pour commémorer le meurtre de Vincent Chin et la lutte pour la justice qui a suivi. En 2003, l'Institut Vincent Chin a été créé dans le but, et je cite, « d'unir les organisations de la région Asie-Pacifique pour lutter contre la haine anti-asiatique », ferme la station, en raison de la résurgence des crimes haineux anti-asiatiques pendant la pandémie de COVID-19. En 2023, l'Institut a publié la deuxième édition du Vincent Chin Legacy Guide, rédigé par Ellen Dion. C'est rare, ça m'arrive, mais c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui.
Je vais essayer de garder mon calme parce que moi aussi, ça me rend vraiment beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup émotive, l'histoire que tu viens de nous partager. J'ai de la misère à trouver mes mots. Je pense que j'ai beaucoup partagé mes pensées, mes ressentiments à l'écoute, mais je tu sais, ça fait 73 épisodes qu'on fait ça, puis je suis toujours pas habituée à faire face à autant de méchanceté gratuite puis autant de haine gratuite, puis ça me désole de me dire qu'on partage le monde avec des gens aussi mauvais, puis que des gens aussi bons que Vincent perdent la vie, tu sais. C'est juste absolument désolant. Puis un gros merci à toi, Noémie, parce que je vois comment ça a pris beaucoup de toi de monter cet épisode puis de le narrater surtout. Moi, en tout cas, j'ai été pendue à tes lèvres tout au long. Ça a été un excellent épisode. Puis c'est aberrant que cette histoire ne fasse pas plus bruit. T'sais, je veux dire, moi aussi, c'est la première fois dont j'en entends parler, puis c'est absolument choquant de se dire qu'il n'y a juste eu aucune conséquence. T'sais, je veux dire, il peut juste refuser de payer l'argent, puis on n'en parle plus, merci, bonsoir, à la prochaine. T'sais, il y a tellement d'éléments sur lesquels s'indigner dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis ça montre juste encore et encore les motifs derrière notre épisode. Faut mettre la lumière sur des victimes comme Vincent Chin. Puis je te remercie mille fois de l'avoir fait avec brio aujourd'hui.
Si Vincent Chin aurait été la personne qui agressait les deux autres hommes blancs, ça aurait été tellement différent. Je pense que Vincent Chin serait mort pareil. Puis ça arrive encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai voulu parler de cet épisode-là, parce qu'il y a tellement un essor dans les dernières années de la violence faite à l'égard des personnes asiatiques aux États-Unis. Puis je trouve ça tellement aberrant. Le peuple américain, les gens américains, ils aiment tellement le contenu que les personnes asiatiques produisent pour autant les rabaisser, puis autant les dénigrer, puis autant les tabasser. Puis je comprends pas les gens américains. En tout cas, Je me perds dans ma tristesse en ce moment, là, mais les personnes américaines utilisent autant de produits asiatiques pour justement survivre de bord puis être autant violent envers les personnes asiatiques.
Ta peine est complètement, complètement, complètement valide. Puis tu as mentionné qu'il y avait eu une grande recrudescence de la haine anti-asiatique dans les dernières années aux États-Unis, mais tu sais, c'est tout autant remarquable ici, là. Je veux dire, on peut clairement le voir, même juste dans le langage. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de violence verbale qui est faite envers les personnes issues de communautés asiatiques, même ici au Québec. Tu sais, j'en entends même quand je peux aller dans des dépanneurs, ou tu sais, je peux aller au métro, je marche dans la rue. Surtout durant le temps de la pandémie de la COVID, tu sais, j'ai même moi-même été témoin de ce genre de commentaires haineux. Que je pense que ta haine est complètement basée sur quelque chose de vrai, puis qui est trop souvent ignoré dans notre société.
Puis même si je trouve ça dur d'en parler, puis de montrer mes émotions en public, comme que je fais en ce moment sur le podcast, je pense que c'est important justement de montrer à quel point ça nous affecte. Je vais juste rajouter une petite dernière touche avant qu'on termine. Je sais pas si, en tout cas pour les personnes qui aiment les animés, moi je suis pas nécessairement grande fan finie d'animé, mais tu sais, j'ai écouté Attack on Titan. Mon animé préféré, c'est Demon Slayer. J'adore tout ce qui est Studio Ghibli, c'est vraiment très important pour moi. Puis justement, Studio Ghibli a gagné son premier gros prix cette année, justement, avec, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est The Boy and the Heron. C'est fou à quel point il y a une différence. Comment je peux dire ça? C'est fou à quel point il y a un détachement entre les pays, puis on vit dans notre propre petite bulle ici, sans penser au reste. Ça fait-tu du sens ce que je dis? J'ai l'impression que ça fait peut-être pas de sens ce que je dis.
Ben oui, ça fait du sens, puis on peut l'élargir à tellement de choses, mais je veux dire, ça fait combien de temps t'entends plus parler des Ukrainiens? Parce que quoi, on a oublié que la guerre, ça se passe encore. Là, je veux dire, c'est revenu dans l'actualité parce que Emmanuel Macron a fait des déclarations par rapport à ça. Puis, mais tu sais, je veux dire, on n'en entendait plus parler jusqu'à ce que l'anniversaire arrive. Là, ça vient de faire 2 ans, puis on a recommencé à en parler, mais sinon, on n'en parlait plus. Là. Comme Simone de Beauvoir a dit, j'ai été faite pour une autre planète, je me suis trompée de destination.
Elle avait raison. Puis avant que vous me dites pourquoi est-ce que tu fais rien pour changer ça, ben j'essaye d'en faire, j'essaye tellement, mais je suis quelqu'un du petit peuple comme vous, puis je peux pas rien changer, je suis pas François Legault, je suis pas Justin Trudeau, je suis pas personne dans le pouvoir politique, fait que je peux juste pleurer sur le podcast, fait que prenez-le, puis on va peut-être essayer de changer quelque chose ensemble.
Ça reste notre mission première, de mettre la lumière sur les victimes. Puis aujourd'hui, on a mis la lumière sur Vincent Chin. Puis je te remercie sincèrement pour cet épisode.
Retournons à notre programme principal-ish. Bref, Jess, de quoi tu me parles la semaine prochaine?
Ben, on va le faire ensemble, celui de la semaine prochaine, si tu veux bien, parce que c'est un spécial Zodiac pour la saison de mon signe du Zodiac, le Bélier. Une petite question pour vous, est-ce que vous aimez ça, jouer aux échecs? Ben, le meurtrier tordu, qu'on va vous présenter la semaine prochaine, lui, il aimait bien ça, les échecs. On se revoit la semaine prochaine, à
51-50 rue des Anges, soirée. Crémé cocktail.
Cheers, guys, et Patrick Sénécal.
Chien, chien.